Voilà. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs. Viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit consolateur. Remplis-nous de joie et d'allégresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. C'est toujours bien d'invoquer l'Esprit Saint, on ne le fait jamais assez avant de faire un travail intellectuel. Et d'autant plus que Saint-Luc, que nous allons découvrir cette année, est vraiment l'évangéliste, on peut le dire, de l'Esprit Saint. Vous savez aussi de Saint-Jean, mais comme vous allez le voir, il en est beaucoup question chez Saint-Luc. Avant... d'attaquer sur la feuille, dire ma joie de reprendre cette année la découverte d'un évangile. Bon, comme il y a besoin de renouvellement, au bout d'un moment, quand on aura fait les quatre évangiles, je passerai à autre chose. Mais je ne vous cache pas que l'évangile reste comme un miracle permanent, parce que je le travaille comme tout prêtre, ne serait-ce qu'avec les homélies du dimanche. J'essaye de faire un travail de l'Évangile dans sa totalité, parce que le dimanche, nous n'avons que quelques passages qu'on appelle des péricopes. C'est un peu le danger de ne s'en tenir qu'à quelques morceaux. Les Évangiles, quand on les prend dans leur ensemble, c'est tout à fait fascinant. Et je ne vous cache pas que je n'ai beau avoir que 20 années depuis mon ordination sacerdotale, je ne me lasse pas, en fait, quotidiennement de lire l'Évangile, de le méditer, de le travailler, et on se rend compte que c'est absolument inépuisable. C'est vraiment, j'en fais l'expérience, enfin, vous en faites l'expérience aussi, je pense. Donc, il y a cette joie d'ouvrir son Évangile, de le lire, de le méditer, d'essayer de le comprendre. Et puis, cela me permet aussi de rappeler que le but de ce cours, c'est de nous donner le goût d'aller plus loin, de vous donner des outils pour que par vous-même, vous puissiez, en lisant l'Évangile, en le priant, en le méditant, en lisant des livres, des bons livres, évidemment. Je vais essayer de ne pas vous recommander des mauvais livres. Il y a quand même une bibliographie que je vous ai proposée. Mais que par vous-même, vous puissiez aller puiser à la source et faire ce travail et voir que finalement, ce travail, on le fera jusqu'à notre mort. Et peut-être qu'au ciel, le bon Dieu organisera des ateliers de découverte de l'Évangile. Tellement il y a une joie à les lire. Voilà. Alors, cette année, je propose Saint-Luc et je déflore un peu le sujet de l'année prochaine, mais ça a été annoncé au mois de juin. Très probablement, nous basculerons aux Actes des Apôtres et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Je pense que la plupart devinent bien quelle est la continuité entre l'un et l'autre. Vous devez avoir une feuille, pour ceux qui étaient là l'an passé, avec... j'essaye de m'en tenir à trois pages écrites. La quatrième, il n'y a pas grand-chose. Là, cette fois-ci, on est un petit peu plus. Mais j'essaierai que ce ne soit pas trop lourd. Il y a également une feuille avec le plan du cours tel qu'il a été annoncé au mois de juin dernier. Je vais me tenir à ce plan. C'est assez difficile de sélectionner parce que je ne ferai pas, comme s'il avait été annoncé, une lecture précise de l'ensemble de l'Évangile parce que 8 fois... Une heure, c'est extrêmement court. Déjà, c'est très condensé. Alors, il y a une sélection, comme d'habitude, comme je le faisais pour l'Évangile selon saint Matthieu, selon saint Jean. Eh bien, je prends les grandes articulations ou les passages les plus caractéristiques. Voilà. Mais évidemment, c'est un choix qui est toujours douloureux parce qu'on laisse de côté des morceaux entiers. Et puis, l'essentiel, c'est de voir l'Évangile dans son ensemble. Donc, je ne saurais que trop vous recommander une lecture personnelle suivie. Une bonne expérience, c'est de passer une soirée ou un dimanche après-midi ou un samedi, le jour de du sabbat pour nos frères juifs. Et Jésus, comme le jour du sabbat, devait méditer les Écritures, eh bien, de lire un évangile en continu. Ça prend 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures si on le fait très lentement. Mais c'est une très très belle expérience, ou sinon le prendre par gros morceaux, ou de vous dire... avant le cours suivant, eh bien, avoir lu au moins ce que nous verrons ici. Je le recommande très très fortement. Je ne ferai pas d'examen pour vérifier avez-vous bien fait votre lecture. Ça s'appelle comment les professeurs y connaissent, de devoir sur table ou je ne sais pas quoi. Vous savez, la mauvaise surprise de l'élève qui arrive le matin. On avait encore ça au séminaire quelquefois. On laisse les cahiers machin et une feuille blanche et voilà. Prenez une feuille. Oui, c'est ça. Je me souviens la parole traumatisante. On l'a encore eu au séminaire. Il y avait des anciens profs qui étaient séminaristes qui se retrouvaient dans la position de celui qui... Voilà, c'est l'expérience. Alors ça, je ne vous ferai pas parce qu'on n'a pas de table. Sinon, sinon vous n'y couperez pas. Voilà. Et si vous avez... on fait quelquefois un saut de géant de Luc 2, de Luc 4 à Luc 9, vous verrez dans le programme, essayez de lire les chapitres 5, 6, 7, 8. Vous ne perdrez pas votre temps. Nous attaquons donc notre sujet. Alors, une introduction rapide, simplement pour dire que, j'ai fait la même introduction les deux années passées pour saint Matthieu et saint Jean. Les évangiles, comme dit saint Irénée, c'est un évangile quadriforme. Un évangile, c'est-à-dire, c'est un témoignage rendu à la personne de Jésus. L'évangile nous fait connaître la figure de Jésus, mais quadriforme, c'est-à-dire qu'il y a quatre témoignages qui, dans leurs différences et quelquefois dans leurs contradictions, nous approchent davantage de la vérité du Christ, qui ne rentre pas dans un cadre tout fait, ce qui serait un peu suspect quand tous les témoignages sont absolument identiques, on se dit il y a quelque chose d'un peu fabriqué. Quatre témoignages, quatre points de vue, quatre expériences de foi différentes qui montrent la richesse de ce que Jésus a vécu, et nous avons besoin des quatre témoignages. On ne peut pas limiter à un seul. J'avais déjà donné l'an passé l'exemple de la résurrection chez saint Marc et la résurrection chez saint Matthieu. Chez saint Marc, le récit de la résurrection, les femmes revinrent chez elles après avoir vu le ressuscité et elles avaient peur. Ça se termine comme ça. Et chez saint Matthieu, le récit, c'est Jésus dit aux disciples, allez annoncer l'évangile à toute la création, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Vous voyez un peu le contraste entre les deux. Alors, qui a raison ? Les deux, évidemment. Et on a besoin des deux pour comprendre que le mystère de la résurrection est un mystère qui est troublant et qui nous touche à plus intime, mais c'est aussi le mystère de l'éclat magnifique de l'Église, et les deux en rendent témoignage. Eh bien, saint Luc, lui, apporte sa note propre, et c'est cela que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Quelle est la note propre de Luc ? En quoi apporte-t-il quelque chose de particulier ? Qui est moins présent, qui n'est jamais totalement absent, mais qui est moins présent chez les autres évangélistes, et qui fait que l'Église a voulu conserver l'évangile selon saint Luc. Parce que quand on dit les synoptiques, vous savez ce que ça veut dire synoptique, je pense que pratiquement tout le monde sait, synoptique, ça veut dire on peut lire sur trois colonnes Matthieu, Marc, Luc ensemble. Ça se correspond à peu près. On pourrait dire pourquoi ne pas avoir tout fondu en un ? C'est ce qui s'est fait dans l'église syriaque avec le diathésaron, et l'église n'a pas retenu cette expérience. On a besoin des quatre témoignages. Alors Luc, lui, a son apport propre que nous allons essayer de découvrir. Tout d'abord, nous arrêterons sur la préface. Je vais m'expliquer de quoi il s'agit. Ensuite, quelle est la perspective de Luc ? Je parle d'une théologie d'histoire. Le titre est tout à fait discutable, j'en conviens, mais il faut bien avoir une porte d'entrée. Ensuite, un petit coup d'œil sur la présentation littéraire de l'Évangile qui nous oriente déjà dans notre lecture. Et enfin, je vais lire des données un peu plus historiques qui, dans le cas de Saint-Luc, sont moins déterminantes. C'est pourquoi je les traite seulement à la fin et beaucoup plus rapidement. L'évangéliste et ses destinataires. Toujours important de dire, au moins poser la question, qui a écrit, dans quelles circonstances, pour quel public, à quelle époque. Alors, tout d'abord, la préface. Parmi les quatre évangélistes, Saint-Luc est le seul à donner à son œuvre une préface. Je joue un peu sur les mots, à peu près partout, vous verrez qu'il est question, on emploie le terme de prologue. Là, je m'inspire d'un exégète qui s'appelle Xavier Léon Dufour. Je suis allé vérifier dans le Littré. Xavier Léon Dufour a raison. S'il y a des littéraires parmi vous, des spécialistes du roman, ils pourront donner les précisions. Une préface ne fait pas corps avec le récit. La préface expose ce qui va se passer, c'est un préliminaire, mais qui est dans un genre différent du récit. Le prologue, nous met déjà de plein pied avec le récit. Le prologue va donner l'intrigue, va donner la problématique, va nous mettre en présence des personnages. Voilà. Chez Saint Luc, il y a une préface. Luc explique ce qu'il veut faire. C'est un procédé littéraire qui n'appartient pas à la littérature juive dans l'Ancien Testament, que l'on trouve en revanche chez les auteurs grecs. Quand vous lisez Hérodote ou Thucydide, les histoires d'Hérodote ou bien la guerre du Péloponnèse ou Thucydide, il y a des grandes préfaces qui disent « Cher Aristarque » ou je ne sais trop quel nom, je t'ai déjà tenu au courant des événements qui se sont passés, il m'a semblé bon de poursuivre ce récit, je te l'expose maintenant au cher Aristarque avec les moyens que nous donne l'histoire, etc. » Puis, il y a toute une explication assez longue. Et on a ce genre de procédé chez des historiens juifs qui étaient de culture grecque, qui étaient nombreux à l'époque du Christ. La lettre d'Aristée, du pseudo-Aristée, ou Flavius Joseph dans le Contre Appion, qui a adopté un style hellénique. Et donc Luc s'inscrit dans ce climat culturel. Et cela est important déjà pour commencer à comprendre la personnalité de Saint-Luc. Alors nous allons lire justement cette préface qui va être très importante pour comprendre le propos de l'Évangile. Quel est le but, qu'est-ce que l'auteur veut quand il écrit l'Évangile ? Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, il m'a paru bon, à moi aussi, qui, dès l'origine, m'étais appliqué à tout connaître exactement, d'écrire pour toi avec ordre, excellent Théophile, pour que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Facile à lire, déjà plus compliqué d'arriver à comprendre tout ce qu'il y a derrière, parce que c'est extrêmement dense, c'est très précis. Les termes employés par Luc ont tous leur importance. Je vais revenir dessus. Tout d'abord, m'arrêter sur le fait qu'il adresse son évangile à un personnage, un certain Théophile, Théophile que les catéchistes du diocèse de Paris connaissent bien, parce qu'il y a pendant un moment, il y a le parcours Théophile. Théophile, ça veut dire l'ami de Dieu. Alors évidemment, on se dit, Luc joue sur les mots, et c'est tout à fait probable. Enfin, il y a un petit clin d'œil. Théophile, l'ami de Dieu, je t'ai adressé, je m'adresse à toi, toi, l'ami de Dieu, qui, en lisant l'Évangile, va grandir dans cette amitié. Mais ce n'est pas parce que le destinataire s'appelle Théophile qu'il ne s'agit pas d'un personnage réel. Enfin, j'ai beaucoup d'exégètes, on se dit, il est tout à fait possible qu'une œuvre du type de l'Évangile de Saint-Luc, avec ce style assez hellénique qu'on a dans d'autres œuvres du même type, soit un personnage tout à fait concret. Nous reviendrons dessus à la fin de notre séance. Alors Luc rappelle que beaucoup ont mis par écrit ce que les témoins oculaires de la vie de Jésus ont rapporté. Les témoins oculaires, c'est-à-dire des gens qui ont vécu avec Jésus, qui l'ont connu en Galilée, qui faisait peut-être partie de la foule, qui assistait au miracle, qui était là, Saint Paul va parler des 500 frères, après la résurrection, qui ont vu Jésus. Bref, il y a eu des témoins, des gens qui ont vu les pragmata en grec. J'ai mis quelques mots grecs parce que on fait le lien avec le français. Est-ce qu'il y a des hellénistes parmi nous ? Voilà. Donc, c'est un peu lointain. On a tous un petit peu fait de grec. Donc, il y a des souvenirs qui vont revenir. Mais si on avait un professeur de grec, je lui donnerais la parole pour préciser le sens des mots. S'il y en a un qui se révèle et qui ne le dit pas maintenant, qu'il n'hésite pas. Voilà. En écrivant, ces témoins, donc ils ont mis par écrit, ils donnent accès à des événements, un pragmata, donc pragmatique, donc des actes concrets, que des événements qui sont connus, repérables dans l'histoire, puisque Saint-Luc dit « ils se sont accomplis parmi nous ». C'est très important, de même que quand Saint-Luc dira, Saint-Paul dira « Jésus est apparu à Pierre, et puis aux 12, enfin aux 11 autres apôtres, et à plus de 500 frères à la fois, dont certains sont encore vivants », au moment où c'est écrit, ça veut dire « allez vérifier, vous avez les éléments ». Quand il écrit « ces événements se sont accomplis parmi nous », il parle de la communauté chrétienne, ces événements, on n'est pas dans un mythe. Il y a un caractère tout à fait incarné, tout à fait réel, sur lequel Luc insiste beaucoup. Donc, mise par écrit d'événements concrets les événements qui concernent Jésus, ses actes et ses paroles. Toujours les actes et les paroles qui vont ensemble dans les Luc et Actes des Apôtres. L'Évangile, petite parenthèse, quand les gens nous disent « moi, j'adhère tout à fait au message de l'Évangile », je leur dis « imbécile, l'Évangile, ce n'est pas un message. Le message, c'est quelqu'un, c'est Jésus ». Donc ce sont les actes aussi de Jésus, c'est l'existence de Jésus, ce n'est pas uniquement un message. Il y a les paroles, mais les actes, la personne. Voilà. Alors, on va se poser la question, on va dire, mais si plusieurs ont déjà écrit, en plus ils étaient témoins oculaires, visiblement Luc, lui, n'est pas témoin oculaire. Pourquoi veut-il écrire? Qu'est-ce qu'il va apporter? Qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau? Au fond, il va raconter son truc à sa sauce, mais nous, on préfère du témoignage immédiat. Des gens qui ont vu, ils ont rapporté par écrit tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Eh bien, si Luc le met par écrit, ce n'est pas simplement parce qu'il veut mettre par écrit une tradition qui risque de disparaître en disant « les derniers témoins vont mourir ». À la limite, ils ont déjà écrit. C'est vrai qu'il a mené une enquête minutieuse, donc on peut dire qu'il va ajouter quelques éléments, il va avoir des témoignages. Mais au-delà du témoignage circonstancié des faits, au-delà de cette histoire telle que nous l'entendons, c'est-à-dire le témoignage rendu à des événements, vous voyez, enquête minutieuse, c'est un terme qui est chez Saint-Luc, qui est très important. L'acribie, en français ça existe, on mène une enquête avec acribie, de façon très fine, avec attention. Luc a mené cette enquête minutieuse, donc il y a quelque chose de très sérieux au niveau historique. Ce qui est important pour Luc, c'est que son destinataire, Théophile, puisse se rendre compte de la solidité des enseignements, en grec les logoi, logos, les logoi, qu'il a reçus oralement, catechéo. On retrouve le catéchisme, même s'il ne s'agit pas exactement de la même chose que du catéchisme, c'est quand même le même mot. Et pour cela, pour que Théophile, qui a entendu un témoignage sur les événements, pour qu'il se rende compte que tout cela, cela est fondé et que c'est le projet de Dieu, qu'il comprenne que c'est le projet de Dieu qui s'est réalisé, eh bien, Luc va composer un récit ordonné. C'est très important, il veut composer un récit de façon ordonnée, en manifestant la cohérence de l'histoire dans laquelle Dieu accomplit son œuvre de salut. Il ne suffit pas de rapporter des événements dans leur matérialité. Pour nous, l'histoire, c'est un petit peu ça. On va dire « ça s'est passé comme ça ». Mais ça n'a aucun intérêt si on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Luc veut montrer quelle est cette cohérence, ce rapport des événements les uns avec les autres, avec la question de l'accomplissement des Écritures, par exemple. Une cohérence qui apparaîtra très fortement au moment de la résurrection, quand on aura exactement cette problématique avec les disciples d'Emmaüs. J'anticipe sur quelque chose que je vous redirai à ce moment-là. Les disciples d'Emmaüs, ils sont exactement dans, on peut faire un parallèle avec ce passage, les disciples d'Emmaüs, ils ont les éléments historiques. Ils disent, voilà, il a été crucifié, des femmes disent qu'elles l'ont vu ressusciter, donc ils ont tous les éléments. Ils ont tous les éléments, mais ils sont incapables d'en comprendre la signification profonde. Et donc, cette histoire leur échappe, elle est énigmatique pour eux. Alors, bon, Jésus leur expliquera, et en leur disant, ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffrit, donc il va montrer qu'il y a une cohérence selon les Écritures. C'est ce que va faire Saint Luc. Il va montrer qu'il y a un projet de Dieu, qui se réalise à travers ces événements. Donc il fait plus que réécrire des choses, il en montre l'ordonnance, la cohérence interne. C'est donc une intention qui est tout à fait théologique. Troisième considération à propos de la préface, eh bien, c'est que Luc, évidemment, va apporter beaucoup de soin dans sa manière d'écrire, plus que chez les autres évangélistes. La composition du récit est particulièrement soignée. C'est un narrateur. Luc, c'est un narrateur. Il ne s'embarrasse pas de détails. Parfois, il simplifie, il va à l'essentiel pour que le lecteur devienne à son tour disciple. Ce qu'il veut, c'est que le récit nous touche pour que nous-mêmes nous disions « c'est ça, je me laisse embarquer avec Jésus ». Alors, autant par exemple chez Saint Marc, dont on peut dire que, pour des exégètes, c'est peut-être c'est l'évangile le plus ancien. Marc va donner beaucoup de détails dans la barque, quand il sur le lac, il voit parler de les cordes qui sont dans un coin, le coussin, je sais pas s'il parle de la force du vent de force 7, vent de force 8, etc. Je pousse un petit peu, mais c'est pas loin. Luc, lui, il y a beaucoup de détails qu'il ne va pas mettre, parce que il pense à la composition littéraire. Évidemment, on sait bien que les romanciers qui maîtrise bien la langue arrive à faire passer des vérités très profondes beaucoup mieux que quelqu'un qui va vous décrire les choses de façon purement extérieure et matérielle. Voilà. Alors ça, c'est l'art de Luc, c'est l'art de la composition du récit. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'exégèse narrative, je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé, hein, on a parlé l'an passé. Alors Luc, c'est le roi de l'exégèse narrative. Hein. C'est les narratologues, hein, en exégèse, ce sont évidemment pour eux, c'est une jubilation de prendre les grands récits de Saint Luc. Hein. Regardez le récit de je sais pas quoi, de Zachée, ou de sa manière de raconter est tout à fait admirable. Le récit des disciples d'Emmaüs, c'est tout à fait impressionnant. Une maîtrise de la langue, la manière d'utiliser les mots, les idées, etc. Le but de Luc, évidemment, et c'est pas simplement que Théophile se rende compte que le témoignage qu'elle a reçu est solide, mais que c'est que nous aussi, hein, nous devenions disciples. L'évangile s'adresse aussi à nous. Hein. Le statut du récit, c'est finalement de nous faire entrer dans une histoire qui fut celle des disciples. Ce qu'il raconte, évidemment, ça concerne les disciples, mais en le lisant, on se rend compte que c'est aussi notre histoire. Là, je vous mets l'eau à la bouche à propos des disciples d'Emmaüs, mais c'est Luc, de façon admirable, arrive à opérer ce basculement où vous vous retrouvez impliqué dans le récit sans vraiment vous en rendre compte. Hein. Donc il y a des détails que Luc ne va pas donner, mais ce qu'il veut, c'est que le lecteur se sente réellement concerné. Il y a un art, j'insiste sur le mot art, hein, en grec techné, une technique, un art, un savoir-faire de la narration dont le but est de nous entraîner dans le récit pour confesser le Christ vivant. Voilà. Il y a cette contemporanéité entre le lecteur et les événements vécus par Jésus. Hein. Luc parle des témoins oculaires et serviteurs de la parole. Par définition, nous ne pouvons pas être témoins oculaires. Luc ne l'était pas. Mais en revanche, nous pouvons devenir serviteurs de la parole. Alors là, je me permets de citer un ouvrage que je vous recommande chaudement, fortement. Hein, un ouvrage écrit par le père Henri de Villefranche, hein, qui est un maître en exégèse, hein, qui fait vivre les textes. Moi, il m'a fait découvrir l'écriture. Hein, c'est un petit livre, Voir et servir, qui se lit très facilement, qui est très riche, hein, dans les cahiers de l'école cathédrale, enfin, collège des Bernardins. Et si vous avez l'occasion de suivre, enfin, attendez la fin de l'année pour aller suivre le père de Villefranche. Hein. Vous êtes ici, je suis très content de vous avoir. Mais vous verrez, je ne peux m'empêcher de dire qu'avec lui, vous ne vous ennuierez pas. Tout à fait passionnant. Alors, c'est un spécialiste de Saint-Luc. Pour lui, c'est le plus grand, le meilleur évangéliste. Voilà, ça, je le laisse dire ça. Moi, je ne dirais pas la même chose, mais c'est normal. Voilà, n'hésitez pas à acquérir ce livre. Je pense que c'est une bonne acquisition. Voilà, serviteur de la parole. Deuxième point, une théologie de l'histoire. En gros, le premier titre que j'avais mis en écrivant ce cours, j'avais mis « L'intention de Luc ». Pourquoi je ne l'ai pas mis ? Parce que l'intention, c'est quand même assez... ça peut paraître un peu audacieux ou prétentieux de dire « on va vous dire quelle est l'intention ». En réalité, elle est plus large que simplement faire une théologie de l'histoire. Je m'en tiens à cette idée que je vais essayer de développer maintenant. L'œuvre de Saint-Luc, vous le savez bien, est composée de deux livres. Je ne vais pas m'arrêter dessus, nous en parlerons l'année prochaine pour ceux qui ne seront pas allés écouter le père de Villefranche et qui resteront ici, mais c'est peut-être qu'on peut faire les deux. Voilà. Et donc, on verra en lisant les Actes des Apôtres qu'il y a tout à fait le style de Luc, qui a énormément de liens, enfin très explicites, notamment hein, le fait que dans l'introduction, l'auteur rattache les Actes des Apôtres à l'Évangile. J'ai consacré mon premier livre, au Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné, hein, au début des Actes des Apôtres. Il y a donc deux volets, une sorte de diptyque, et le diptyque, évidemment, forme une unité. Hein. Le livre des Actes n'est pas un ajout ultérieur, un appendice, il fait partie du projet initial de Luc. Et on le voit bien dans la cohérence même de l'Évangile. Alors, je n'ai pas la place, pour ce soir, ça faisait trop de choses, mais j'ai pas pris le temps de vous écrire en quoi on voit que des éléments de christologie, hein, des paroles qui concernent le Christ, des affirmations sur le Christ, qu'on a chez saint Matthieu ou saint Marc, on ne les a pas chez saint Luc. Alors, on dit, c'est bizarre, pourquoi ? Ben parce qu'en fait, on les a dans les Actes des Apôtres. Hein. Ils transfèrent aux Actes des Apôtres des choses que Matthieu et Marc ont de leur évangile, Dans les Actes des Apôtres, vous allez voir dans la prédication de Pierre ou dans certaines prises de parole des choses, et tiens, ça c'est dit par Matthieu et Marc. Donc Luc envisage vraiment l'évangile et les Actes des Apôtres comme un tout, et il répartit la matière dans les deux livres. Le premier point, je voudrais relever un parallèle entre les deux livres. Dans le contenu, un point qui va se révéler d'une grande importance. Le ministère public de Jésus s'ouvre solennellement par la descente de l'Esprit-Saint sur Jésus après son baptême au Jourdain. Alors, les chapitres 1 et 2 sont évidemment de très grande importance, mais on sait que traditionnellement, le plan des évangiles, des quatre évangiles, on le voit chez saint Marc et chez saint Jean, ne comporte pas les récits de l'enfance, il n'y a que chez saint Luc et chez saint Matthieu. Les évangiles, au sens initial, c'était la proclamation faite par Jean, le ministère de Jésus, la mort et la résurrection. Donc l'ouverture, c'est le baptême de Jésus par Jean. Or, qu'est-ce qui se passe au baptême, juste après le baptême? C'est la descente de l'Esprit-Saint sur Jésus. D'ailleurs, chez saint Luc, le baptême n'est même pas raconté, il est juste évoqué. Jésus, ayant été baptisé, quand il sortait de l'eau, était en prière, et là, il y a l'Esprit-Saint qui descendit, etc. Donc, il va beaucoup insister sur la prière de Jésus, la descente de l'Esprit-Saint. Chez saint Matthieu, au contraire, il y a une insistance sur le baptême, avec le petit dialogue avec Jean. Vous voyez, l'insistance de Luc, comme je vous disais, c'est un narrateur, son but, c'est de nous conduire au propos principal, qui est la descente de l'Esprit-Saint sur Jésus. Voilà. Cette descente de l'Esprit-Saint va jouer un rôle tout à fait central. Jésus est celui qui reçoit l'Esprit-Saint. Chez saint Luc, fondamentalement dans l'Évangile, Jésus est celui qui est oint de l'Esprit. D'ailleurs, il va citer le passage d'Isaïe 61, nous reviendrons dessus dans 2 mois, je crois, ou 3 mois. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction, référence à la scène du baptême, pour porter la bonne nouvelle, pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Très important, c'est très lucanien, cette insistance sur le « aujourd'hui ». Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Aujourd'hui, l'Esprit-Saint est venu sur Jésus et Jésus va annoncer l'Évangile, va apporter l'Évangile du salut. Rempli de l'Esprit-Saint, Jésus va s'associer 12 hommes auxquels il va donner le nom d'apôtres. Donc, voyez comment les choses se passent. Jésus est introduit par Jean, il est au centre. Il y a l'Esprit-Saint qui vient sur lui, il rassemble 12 apôtres, donc tout est en place. Jésus, conduit par l'Esprit-Saint, va, pendant tout l'Évangile, former les apôtres jusqu'à ce qu'il leur promette le don de l'Esprit-Saint. Pour qu'ils deviennent les témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'Évangile se termine sur cette promesse. Comment fonctionnent les actes des apôtres? Eh bien, c'est exactement le même plan. C'est exactement le même plan. C'est-à-dire, ça commence par une effusion de l'Esprit-Saint. Non plus sur Jésus, mais sur les 12 apôtres. Souvent, on dit la Pentecôte, c'est merveilleux, l'Esprit-Saint qui arrive sur toute l'Église. Vous allez un peu vite en besogne. L'Esprit-Saint, il arrive sur les 12. Il arrive sur les 12. Ça change considérablement les choses. Ça veut dire que ma relation à l'Esprit-Saint passe par cette Église qui est rassemblée par les 12, par les apôtres. Et leurs successeurs. Donc la question du ministère dans l'Église, la question de caractère, Vatican II va même parler de l'Église comme d'un sacrement, de l'unité de Dieu. Voilà. Donc là, c'est un vocabulaire théologique qui n'est pas dans l'Évangile. Vous l'écrivez surtout pas, sinon on va dire, mais le père Henri raconte des trucs que c'est pas l'exégèse. Le terme de sacrement n'est pas... Mais il y a quand même l'idée de cette présence. Vous voyez, l'Évangile... L'Esprit-Saint descend sur Jésus. Jésus, à partir de là, va commencer sa mission en rassemblant les 12 et en annonçant l'évangile du salut. Une fois que Jésus a fini, il monte au ciel, mais non sans avoir dit aux 12, maintenant c'est à vous de jouer. Et les 12, ils se retrouvent au Cénacle. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe, c'est que l'Esprit-Saint vient sur eux. Tous furent remplis de l'Esprit-Saint, ça vous connaissez par cœur. Et ils commencèrent de parler en d'autres langues, selon que l'Esprit-Saint leur donnait de s'exprimer. Donc annonce de l'évangile, avec des juifs qui viennent de toutes les nations de la terre. Et ça, c'est un thème qui est déjà présent dans l'Évangile, mais qui sera encore plus fortement dans les actes des apôtres, c'est cette ouverture universel vers la mission. En fait, c'est peu présent dans l'évangile. Hein, c'est juste préfiguré, mais dans les actes des apôtres, évidemment, c'est cette ouverture extraordinaire. Hein, l'évangélisation qui va être portée par ce groupe des 12 qui vont s'agréger à leur tour de très nombreux disciples et finalement l'Église qui rejoindra Rome, hein, comme je vais y arriver, je vais le dire tout de suite. Voilà. Voyez la manière dont les deux récits sont constitués avec ces espèces de cercles concentriques hein, qui inaugurent un mouvement, j'allais dire, qui n'est pas terminé. Deuxième réflexion, à travers tout cela, à travers ce don de l'Esprit-Saint, d'abord sur Jésus puis sur les apôtres, Luc manifeste que Dieu accomplit un plan de salut à travers l'histoire de Jésus et celle de la communauté chrétienne. C'est l'objet de son diptyque, c'est de manifester ce plan de salut à travers l'histoire. Il écrit comme historien, c'est sûr, hein, je vous renvoie à toutes les petites notations au début de ces récits, hein, au temps du roi Hérode, hein, puis alors surtout l'entrée solennelle de Jean-Baptiste, hein, je l'avais mise au début, puis je l'ai effacée, mais je vais quand même vous la lire pour bien prendre conscience que Saint-Luc, c'est pas un petit rigolo de ce côté-là, il a des sources, hein, il situe les choses avec beaucoup de sérieux. Hein. Un passage, vous allez dire, ah mais oui, je connais, voilà. Chapitre 3, donc le début du ministère de Jean-Baptiste. L'encase du principat de Tibère-César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe, son frère, tétrarque du pays d'Iturée et de Traconitide. J'espère que vous savez où sont l'Iturée et la Traconitide. Très important. Voilà. Lysanias, tétrarque d'Abilène, sous le pontificat d'Anne et Caïphe. Ouf. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà médité dessus. Voilà. Eh bien, ça fait partie de l'évangile de Saint-Luc. Hein. 7 noms propres et 3 noms et 5 noms de lieux. Voilà. Avec ça, hein, si on n'a pas les coordonnées, l'abscisse, l'ordonnée et... C'est quoi ? Il y a aussi le... L'abscisse, l'ordonnée, il n'y a pas la troisième. Ouais. Trois dimensions. Là, on a vraiment toute l'histoire. En fait, on a la jonction de l'histoire et des lieux, hein, du temps et des lieux, et les personnes concrètes. Mais les personnes concrètes, et qui sont tout à fait repérées. Il y a un moment, par exemple, hein, quand il dit Ponce Pilate était gouverneur de Judée, on n'avait pas beaucoup de sources à propos de Ponce Pilate en Judée. Hein, on a dit que ce qui montre bien que l'évangile est une invention. Pas trop difficile de parler de Tibère César. Jusqu'au jour où, je crois, en 1959, on a trouvé cette plaque, il y en a qui connaissent bien, hein, qu'on a à Césarée Maritime, hein, Pilatus, hein, je ne sais pas si c'est Praefectus, ou je crois que c'est ça le titre. Voilà, on a dit sur place, tiens, il y a peut-être quand même quelque chose.
Lysanias, on ne connaissait pas Lysanias, si on l'a trouvé.
Et on a, voilà. Toujours meilleur. Bravo. Vous avez de très bonnes sources. Voilà, donc, plus ça avance, plus on se dit, mais Luc est vraiment très attentif hein, à cette histoire. Donc, il prend l'histoire au sérieux. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Hein, il a mené son étude avec acribie et il rend compte de ce que les historiens ont voulu dire. Mais ce n'est pas son objectif. Son objectif, hein, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est donc de conduire Théophile à se rendre compte de l'action de Dieu dans l'histoire. Hein. Il recompose les récits s'il le faut, hein, au besoin, en bousculant l'ordre des faits, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il propose une véritable lecture théologique de l'histoire hein, qui va relier l'origine, le chapitre 3 par lequel s'ouvre l'évangile, nous ramène à Adam, hein, Jésus, fils de fils d'Adam, fils de Dieu, hein, et qui va nous mener jusque au temps présent. L'importance du terme, aujourd'hui. La dimension historique, chronologique est extrêmement importante. On repère dans l'Évangile trois phases hein, qui sont bien marquées, celle de l'Ancienne Alliance, celle de la vie terrestre de Jésus et celle de la mission de l'Église. Tout d'abord, donc, trois phases. Ça, c'est propre à Luc. Les autres évangélistes n'ont pas tout à fait la même répartition du temps. Tout d'abord, la loi et les prophètes qui vont jusqu'à Jean. C'est au chapitre 16, verset 16, c'est un verset d'une grande importance. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Donc Jean est le dernier des prophètes, c'est l'aboutissement de toute l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Jean-Baptiste introduit Jésus en l'annonçant d'emblée comme celui qui baptisera dans l'Esprit Saint. Donc, Jean est au seuil il introduit Jésus, donc deuxième phase, et la caractéristique de Jésus, c'est de baptiser dans l'Esprit-Saint. Vous voyez, chez saint Matthieu ou chez saint Marc, il y aurait une insistance sur le royaume. Jésus vient inaugurer le royaume. Luc insiste moins sur l'inauguration du royaume. Il va plus insister sur le jugement opéré par Jésus. Il y a quelque chose qui s'accomplit en Jésus. On entre dans une nouvelle étape de l'histoire et Jésus est au centre. Sa naissance concerne le monde entier. Dans l'histoire, puisqu'on dit que il est fils de Joseph, d'Élie, de Matthat, de Lévi, etc. Et quand on remonte, tac, 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 on remonte l'échelle, on arrive jusqu'à Enoch, Seth et Adam. À travers Adam, c'est toute l'humanité. Mais ce qui est vrai historiquement, c'est vrai également géographiquement, hein, puisque c'est le recensement de tout le monde habité. Hein, oikoumené en grec, vous connaissez, hein, oikoumené, hein, œcuménisme. Pour nous, œcuménisme, ça veut dire entre les églises. À l'époque des évangélistes, l'œcuménée, c'était tout le monde habité. C'était l'universalité. Voilà. Ça, avec oikos, en effet, hein, qui est la maison, qui est un terme qui revient très très fréquemment chez saint Luc. Tout à fait. Voilà. Et ce côté universel, donc avec Jésus, on est dans le temps d'un accomplissement. Hein. Avec Jésus également, hein, après son départ, avec la Pentecôte, donc, nous entrons dans une troisième phase, donc qui est bien marquée avec le livre des Actes des Apôtres, c'est le temps de la mission, hein, le temps de l'Église sous la conduite de l'Esprit-Saint. L'Ancien Testament, il y avait cette promesse du don de l'Esprit, qui sera rappelée par Pierre, déjà par Jésus à la synagogue de Capharnaüm, de Nazareth, pardon, en ce qui concerne, et puis ensuite l'annonce de la venue de l'Esprit qui se réalisera sur l'Église, rappelée par Pierre. Donc l'Ancien Testament, c'est le temps de l'annonce de l'effusion de l'Esprit. Le deuxième temps, le temps de Jésus, c'est l'Esprit-Saint qui investit Jésus, ce fait, et le Messie, celui qui reçoit l'onction. Et le troisième temps, c'est l'Esprit-Saint qui est répandu à partir de Jésus, sur l'Église. Et c'est pour cela qu'on peut dire que Luc est vraiment l'évangéliste de l'Église, celui qui donne à l'Église son orientation profondément missionnaire. Voilà. Trois phases qui vont sous-tendre toute la pensée de saint Luc. Troisième considération, qui finalement est très liée à ce qui précède, parce que histoire et géographie, dans la Sainte Écriture, sont intimement liés. Quand on va en Terre Sainte, on s'en rend bien compte. Il y a comme une géographie théologique. Une géographie théologique que je simplifie considérablement, parce qu'on pourrait se poser la question du lien avec la Galilée, qui est assez peu présente chez Luc. Il y a, dans l'Évangile et dans les Actes, deux orientations différentes. L'Évangile commence à Jérusalem et se termine à Jérusalem. C'est quand même assez frappant. L'évangile commence à Jérusalem et se termine à Jérusalem, ce qui n'est pas le cas des autres. Commence à Jérusalem, on se souvient du service de Zacharie, le prêtre Zacharie, au temple, hein, c'est comme ça que ça commence. On dit, mais qu'est-ce que ce bonhomme vient faire, hein, il n'est pas quand même directement lié à Jésus. En plus, ça va être pour la naissance de Jean-Baptiste, même pas pour la naissance de Jésus. Mais voilà, il est grand prêtre, il est au temple. L'évangile va se terminer à quel endroit exactement? L'évangile se termine à Rome, à Jérusalem, en Galilée. Alors la Galilée, ce n'est pas Jérusalem. Voilà. Chez saint Matthieu, c'est la Galilée. On peut penser en effet que quand Jésus dit aux femmes, les anges disent, dites aux disciples d'aller en Galilée, c'est là, hein, qui vous précédera. Et probablement quelque chose d'historique, hein, le fait que Jésus retourne en Galilée, avec le récit de la pêche miraculeuse chez Saint-Jean, etc. Luc, on pense qu'il a écrit son évangile après les autres, a probablement recomposé les choses, comme je vous l'ai dit, un peu à sa manière, en poursuivant son but. Donc certains, moi j'ai entendu un monsieur, c'est une formation sur Saint-Luc, j'étais tout jeune prêtre, et à ce moment-là, je faisais comme ça quand je ne savais pas quoi répondre, hein, mais j'étais un peu, j'étais pas content du tout, parce qu'il disait, mais c'est la recomposition, ce n'est pas de l'histoire. Hein, si Luc raconte que ça ne se termine pas à Jérusalem, évidemment, avec la conception de l'histoire que nous avons, il faut dire, à ce moment-là, il a pris son ticket de métro à la station machin, puis il est descendu là, et puis il faisait beau, il faisait mauvais. Ça n'a strictement aucun intérêt. Quand Luc fait terminer son évangile à Jérusalem, hein, même si ça s'est passé en Galilée, parce que ça ne va pas toucher la vérité des événements qui nous sont rapportés. Or, pour saint Luc, ça nous indique une chose très importante, c'est que Jérusalem, c'est le lieu de l'accomplissement des prophéties. Hein, c'est là où les prophéties devaient s'accomplir. Très précisément, Luc termine son évangile au temple de Jérusalem. Les apôtres étaient constamment dans le temple à louer Dieu. Ça se termine dans la louange. Ça commence avec le culte majestueux du temple et ça va se terminer dans la louange au temple. Voilà, ça c'est Saint Luc. Là, il y a des quantités de thèmes qu'on va voir ressortir. Donc, il y a un projet théologique. On commence à Jérusalem, on finit à Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu où s'accomplit le projet de Dieu. Et c'est ce que Jésus lui-même va dire, notamment à deux moments que nous verrons dans un de nos cours sur celui de la montée vers Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu où doit se sceller le destin du Fils de l'homme. On voit Jésus pleurer sur Jérusalem, qui n'a pas accueilli le temps de la visite, à la paix que le Christ offrait. Mais ça, un prophète ne peut pas mourir en dehors de Jérusalem. Et Jésus va monter vers Jérusalem. Ça va être un des aspects très importants. Nous le verrons, ça sera, le sixième cours. Voilà. La montée vers Jérusalem. Donc il y a une signification théologique de Jérusalem comme le lieu de l'accomplissement. On pourrait jouer sur les mots, comme vous repérez bien les mots. Là on passe à l'hébreu, c'est des hébraïsants, voilà, vous allez vous y mettre, on va essayer de s'y mettre ensemble. Shalem, Yerushalayim, Shalem, on dit c'est la paix. En fait en hébreu, la paix c'est un petit peu, c'est trop abstrait. La paix c'est-à-dire la plénitude, le fait de remplir. Shalem, voilà, on remplit. Jérusalem c'est le lieu où on remplit les Écritures, où elles s'accomplissent. Voilà. Les actes des apôtres. Les actes des apôtres commencent à Jérusalem et terminent, c'est marqué sur la feuille, s'il y en a qui... à Rome, bravo. Voilà, bravo. Il y en a qui avait lu, mais il était trop rapide. Voilà, ça se termine à Rome. Ça promet des beaux pèlerinages. Un pèlerinage à Jérusalem, après, il faut qu'on aille à Rome. On va à Rome, Jean, c'est promis. Ah, mais il ira à pied. Ben, on se retrouve là-bas. Ben, je prendrai l'avion. On verra qui arrive en premier. C'est possible que ce soit Jean, parce qu'il ira avant même que j'ai le temps de prendre mon billet d'avion. Voilà. Les actes des apôtres commencent à Jérusalem et se terminent à Rome, centre du monde païen. C'est à Jérusalem qu'au début des actes des apôtres, l'Esprit Saint va venir. Relisez le récit de la Pentecôte. Là, j'anticipe sur les prochaines, vous verrez le mot « remplir ». Il est partout dans la cité de la Pentecôte. La maison fut remplie du souffle. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. La foule a l'impression qu'ils sont remplis de vin doux. Quand l'Esprit Saint vient, il remplit. C'est l'accomplissement, c'est la plénitude. Dieu vient donner de la plénitude à sa parole. L'Esprit Saint, c'est, il y a cette espèce de réalité, de présence, de plénitude. L'Esprit Saint est répandu à Jérusalem, là où s'accomplissent les Écritures. C'est à partir de là que va se déployer la mission qui mènera les apôtres à Rome. Et Jésus leur avait dit juste avant son ascension, on le voit au début des actes des apôtres, vous serez mes témoins à Jérusalem, vous avez cette géographie qui est exprimée, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et de fait, il y a un moment où Paul, qui est emprisonné, a la visite d'un ange dans la nuit, qui lui dit, je te demande maintenant, le Seigneur te demande maintenant d'aller rendre témoignage à Rome. Et c'est là qu'il a rendu témoignage jusqu'au martyr. Or, Rome, symboliquement, c'est extrêmement fort. Rome, ça veut dire le centre du monde civilisé, païen, de l'époque. Aujourd'hui, on dirait, je ne sais pas si on le dirait encore, mais New York, voilà. Tu iras à New York, la Big Apple, c'est ça, le symbole, voilà. Eh bien, tu vas au centre de Ninive pour l'Ancien Testament. C'était les Assyriens, la ville terrible qui broie tous ceux qui... Voilà. C'est les lectures qu'on a à la messe en ce moment. Là, Jonas va à Ninive. Aucune avis, je suis un juif pieux. Je te demande d'aller à Ninive. Voilà. Finalement, Jonas va finir par y aller. Paul, c'est Rome. Donc, il y a clairement, à travers cette géographie, un message. Jérusalem, Jérusalem, puis Jérusalem, Rome. D'aucuns diront qu'on a tout le programme théologique de l'Église. Quel est le centre de l'Église? Quelle est la ville centrale de l'Église? Rome. Jérusalem. Il y a les pros pour Jérusalem. Voilà. Qui est pour Jérusalem? Quelques-uns. Et Rome? Voilà. Plusieurs autres sont pas. Les autres ne savent pas. Les autres sont prudents. Un bel article, je crois, de Rémi Brague ou du cardinal Ratzinger, qui dit le centre de l'Église, c'est la tension entre Jérusalem et Rome. Oui, c'est pas un lieu, c'est deux lieux. C'est le monde païen qui ne cesse d'être évangélisé par Jérusalem. Ça part de Jérusalem qui est le lieu de l'accomplissement. C'est là que Jésus est mort. Pour nous, c'est fondamental. Voilà. On revient toujours à Jérusalem. C'est pas de la pub pour le pèlerinage en Terre Sainte l'été prochain. Hein. Mais théologiquement, c'est d'une grande importance. Jésus le dit, c'est à Jérusalem que doivent s'accomplir. Nous nous souvenons toujours que Dieu a été fidèle à Jérusalem comme une épouse. Mais il y a sans cesse cet envoi, c'est à Rome, c'est-à-dire dans tout le monde habité, que tu dois rendre témoignage. L'Église est dans cette tension permanente entre les deux. Vous voyez comme quoi la théologie, la géographie dans les évangiles est porteuse, de très très grande importance. Voilà. Alors là, je crois qu'on touche quelque chose d'assez important et de structurant dans l'Évangile. Maintenant, je vais une partie un petit peu plus facile parce que la présentation littéraire de l'Évangile, on décrit les choses. Je vais présenter les thèmes lucaniens. Il y a des très beaux livres qui existent, qui vont vous dire on va prendre tel thème ou tel autre dans l'Évangile et on fait des beaux développements. Je crois qu'il est important d'avoir présent à l'esprit cette structure historique et géographique par laquelle nous voyons comment Dieu accomplit son dessein. Présentation littéraire de l'Évangile. L'eschatologie, alors c'est un gros mot, employez-le le moins possible parce que ça fait savant, mais on ne sait pas trop ce que c'est. L'eschatologie, c'est c'est ce qui concerne la fin des temps, la venue du Christ à la fin des temps, le jugement dernier, la vie éternelle. En réalité, c'est peu présent chez Saint Luc. Il est peu, on n'a pas le temps, c'est pas notre objet de regarder pourquoi l'eschatologie est peu présente chez Saint Luc. Certains disent que c'est parce qu'on ne voyait pas la parousie arriver. Alors Luc se dit, bon, ben, dans ce cas-là, occupons-nous aujourd'hui, ça évitera de poser les problèmes difficiles à résoudre. En tout cas, Saint Luc voit la réalité présente du Christ accomplissant les Écritures, plus qu'une tension vers le royaume. Très très marqué chez Saint Luc, chez Saint Matthieu, pardon. Chez Saint Matthieu, vous avez le discours eschatologique, vous savez, la parabole du jugement dernier, avec les brebis, les boucs, etc., les vierges sages et les vierges folles, enfin toutes les paraboles qui parlent de la venue du Christ, du Fils de l'homme dans la gloire. Ça, c'est beaucoup moins présent chez Saint Luc. Il insiste beaucoup plus sur l'actualité du don de l'Esprit Saint donné en Jésus, à partir de Jésus et vécu aujourd'hui. Luc 4, 21, c'est un texte central. Jésus à la synagogue de Nazareth. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Avec Saint Luc, on est dans l'aujourd'hui. Jésus est au centre. Vous voyez l'image que je vous ai donnée, cette espèce de triptyque. L'Ancien Testament avec la promesse, les Actes des Apôtres avec l'expansion de l'Évangile. Au centre, vous avez Jésus. Et Jésus, il est aujourd'hui. C'est un aujourd'hui qui valait il y a 2000 ans, c'est un aujourd'hui qui vaut encore aujourd'hui, puisque nous recevons le même Esprit Saint, qui vaut pour 2018. Voilà. Donc là, on a déjà des thématiques. Aujourd'hui, l'Évangile est annoncé aux pauvres. Voilà. Nous voyons là se dessiner les grands thèmes littéraires de l'Évangile. J'en retiens peut-être les plus significatifs, mais j'ai bien conscience d'en laisser sur le côté d'autres sûrement très importants. Évidemment, j'ai beaucoup parlé de l'Esprit Saint, j'en ai suffisamment parlé depuis tout à l'heure, un acteur de premier plan, non seulement parce qu'il intervient souvent, plus que dans les autres évangiles synoptiques, il se manifeste abondamment dans les récits de l'enfance, regardez par exemple la Visitation. Dès que Marie salua Élisabeth, elle fut remplie de l'Esprit Saint, et Jean-Baptiste, rempli de l'Esprit Saint, se mit à tressaillir d'allégresse, etc. Tous les récits de l'enfance, la Vierge Marie, l'ange qui lui dit « Tu es comblé de grâce, l'Esprit Saint viendra sur toi, te prendra sous son ombre ». Voilà. Mais il y a aussi dans la vie de Jésus des moments assez particuliers. Jésus fut poussé par Jean-Baptiste, par l'Esprit Saint au désert. Jésus qui exulte sous l'action de l'Esprit Saint. Chez Saint Matthieu, on verra Jésus dire « Je te bénis, Père, tu as caché cela aux sages et aux savants, tu le révèles au tout petit. » Chez Saint Luc, la même chose, mais avec en plus Jésus tressaillit sous l'action de l'Esprit Saint. Ouais. Ça, on l'a un peu partout. Quand Jésus parle de la prière, il dit « Le Père vous donnera l'Esprit Saint. » Mais plus profondément, l'Esprit Saint, c'est celui qui anime Jésus dans toute sa mission. C'est Luc 4, ce passage très important, du baptême et de la synagogue de Nazareth. Deuxième thème, la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Alors c'est intéressant parce que dans les béatitudes, par exemple, vous avez les béatitudes de Luc et les béatitudes de Saint Matthieu. Chez Saint Matthieu, heureux les pauvres de cœur. C'est très beau, les pauvres de cœur. Ben on essaye d'avoir un compte en banque qui soit pas trop vide. Hein, donc c'est pas la question de la pauvreté matérielle, pauvre de cœur. On peut avoir un bon compte en banque et la pauvreté du cœur. Hein. Chez Saint Luc, il va insister davantage sur la pauvreté économique. Hein, il ne parle pas des pauvres de cœur. Hein, et on le voit parce qu'il y a une réalité présente. Hein, on voit que Jésus va donner une certaine place à ceux qui sont plus pauvres. Hein, on voit le voir. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui montre qu'on ne peut jamais faire entrer Jésus dans un espèce de discours unilatéral, c'est que Zachée, hein, qui est riche, on ne dit pas qu'il va s'appauvrir, on dit juste qu'il va donner, hein, au lieu de tout garder pour lui. Hein, voilà. Parce que la tentation ensuite de dire, le discours de Jésus est clair, il est contre les riches. C'est souvent un petit peu comme ça. Cette espèce de logique binaire n'est pas présente dans l'évangile. Hein, mais c'est sûr que Jésus a une attention particulière pour les pauvres dans l'évangile. Hein, et puis, tous ceux qui sont un petit peu en marge. Hein, les deux larrons crucifiés avec Jésus, c'est propre à Luc. Les Samaritains, qui étaient les ennemis déclarés des Juifs, et c'était réciproque, hein, sont l'objet d'une certaine attention de la part de Luc. On les voit à plusieurs reprises, hein, y compris dans les Actes des Apôtres. Alors, vous avez les dames qui sont présentes ici, vous dites, mais pourquoi est-il question des femmes, là où il est question des pauvres? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, les femmes n'étaient pas forcément au premier plan. Hein, on les voyait toujours un petit peu reléguées au second plan. Il paraît que ça a été souvent dans plusieurs civilisations. C'est clair qu'avec Saint Luc, hein, il donne aux femmes une place tout à fait particulière, assez marquante. Hein, on le voit avec la scène de la femme qui verse le parfum, les larmes sur les pieds de Jésus. On le voit avec Marthe et Marie, hein, les deux sœurs qui se disputent un petit peu. Il y en a une qui met le couvert, ma sœur ne fait rien, etc. Il y a aussi le rappel des femmes qui marchent avec Jésus. Il y a les apôtres et les femmes qui le suivaient, qu'on va retrouver jusqu'à la croix. Alors, tous les évangélistes parlent des femmes au pied de la croix, mais Luc insiste particulièrement en donnant leur nom sur les femmes qui sont disciples pendant tout le ministère en Galilée. Et ça, chez Saint Luc, il y a cette attention qu'on a moins chez les autres. D'ailleurs, on entendrait peut-être le redire, mais il y a une injustice assez profonde au sens où toute la gente masculine dans l'évangile, quelle qu'elle soit, se prend à un moment ou à un autre, une paire de claques. Hein. Même Saint Jean et Saint Jacques, hein, qui les doux Jean et Jacques, se font remettre en place par Jésus quand ils ont des propos un peu rapides, un peu déplacés. Hein, quand ils veulent envoyer le feu. Oui, c'est des jeunes de 16 ans, évidemment, envoyer le feu sur eux, ça veut dire on leur rentre dedans. Quoi. Vous allez vous calmer, ils vont apprendre. Hein, voilà, ils se font remettre en place quand ils demandent d'avoir les premières places, etc. Hein. Chez les dames, il n'y a pas une seule fois où on voit Jésus les remettre en place. Évidemment, il avait de la galanterie ou de la délicatesse, ou il savait parler aux dames, je ne sais pas, pour me donner l'explication. Mais je dirais pas qu'il y a une profonde injustice, mais peut-être un petit peu quand même.
C'est la mère qui demande les premières places.
C'est la mère, évidemment. En plus, ils sont trouillards. Oui, c'est ça. Mais il se tourne vers eux, il les démasque. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais ça, une vraie maman, hein, qui veut placer ses fils, hein, comme il faut, ça c'est du vrai. Il y a de la psychologie dans les évangiles, du vrai de vrai. Voilà. Troisième thème qui apparaît qui est important, le thème de la miséricorde, évidemment. Hein, on dit que Luc est l'évangéliste de la miséricorde. Hein, Dante, alors c'est pas dans la comédie, c'est dans un autre texte, j'ai pas le titre ici, hein, qui parle de Luc comme le scribe de la tendresse du Christ. Hein, c'est tout à fait juste. Alors évidemment, on connaît les grandes paraboles, hein, quatre grandes paraboles, c'est les trois du chapitre 15, la brebis perdue, la drachme perdue et le fils prodigue. Hein, en fait, c'est une parabole en trois, hein, nous l'étudierons, hein, c'est dans notre programme. Mais il y a aussi la parabole du bon samaritain. Hein. Jésus est véritablement le sauveur venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Hein. C'est l'expression à la fin de l'histoire de Zachée, hein, une expression qui résume, hein, finalement toute l'œuvre salutaire de Jésus. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà. Et puis enfin, hein, le thème de l'allégresse, la louange, la prière, les expressions de joie qui sont extrêmement nombreuses, à la prière qui est omniprésente, à Jésus qui prie tout le temps. Hein, quand Luc est le seul à rapporter la prière de Jésus au moment du baptême, au moment du choix des apôtres, au moment de la transfiguration. Vous pouvez mettre faire jouer les synoptiques, faites le petit exercice chez vous, vous regardez trois récits, vous verrez, Luc ajoute Jésus était en prière. Un peu comme pour l'Esprit Saint, hein, ça revient souvent. Et puis, bien sûr, il y a le pater hein, qui apparaît dans une version un peu plus courte que chez saint Matthieu, mais aussi le Magnificat, le Benedictus et le Nunc Dimittis, les trois cantiques évangéliques qu'on a à l'office matin, midi et que nous chanterons encore ce soir, matin, après-midi et soir. Voilà. Le plan, en fait, je vais passer rapidement. Hein, c'est autant Luc est un bon narrateur, quand il écrit, on a un plaisir à le lire, on veut connaître la fin de l'histoire et on se laisse prendre. Autant la composition du livre est beaucoup plus difficile à cerner. Hein. Alors, je retiens trois grands morceaux. Hein. Il y a bien sûr le prologue, en fait, c'est les récits de l'enfance de Jésus. Prologue, ça veut dire cette magnifique préparation du ministère de Jésus. Ensuite, le ministère en Galilée. Vous voyez que c'est la géographie qui va déterminer les grandes parties, hein, les chapitres 3 au chapitre 9. Ensuite, la route vers Jérusalem, avec le verset 9-51, que vous connaîtrez par cœur, parce qu'on le citera presque à chaque fois. Jésus affermit son visage pour aller vers Jérusalem. Hein, c'est un tournant dans l'évangile qu'on trouve chez saint Marc. Et saint Matthieu, mais chez saint Luc, c'est particulièrement bien marqué. Là, vous avez une dizaine de chapitres, la montée vers Jérusalem, avec quelquefois peut-être des incohérences, parce que brusquement, on a l'impression que Jésus se retrouve de nouveau en Galilée, hein, si on essaie de suivre trop rigoureusement. C'est pas un problème pour Luc. Voilà. Jésus monte vers Jérusalem. Voilà. Et enfin, à Jérusalem, avec une partie de ministère, la dernière scène, la passion et la mort. Voilà. Tout le monde n'est pas totalement assommé. Voilà. Voilà. Les coups de maillet vont bientôt se terminer. Comme ça, on aura le temps de quelques questions avant d'aller chanter le Nunc Dimittis tiré d'évangile de Saint-Luc. Vous pourrez dire pendant les replis, nous savons qui est l'auteur. Voilà. Nous, on a suivi hein, le cours qui nous avait tout expliqué. Les autres ne le savent pas forcément. Voilà. L'évangéliste et ses destinataires. Eh bien, il est difficile d'établir de façon certaine l'identité de l'évangéliste. Il ne dit rien de lui-même. Hein. On sait, nous l'avons vu dans la préface tout à l'heure, il ne fait pas partie du groupe des apôtres, ni des disciples qui ont suivi Jésus. Il ne fait pas partie du groupe des 12. Et il parle des témoins oculaires, des pragmatas, mais lui-même n'y était pas. Hein. Il le laisse bien entendre. Voilà. Depuis la fin du IIe siècle, la deuxième moitié du IIe siècle, on identifie l'auteur du troisième évangile à Luc, le cher médecin. Saint Irénée, qui est une source extrêmement importante, Saint Irénée, vous savez, il écrit une somme théologique quasiment, enfin c'est pas le titre de son livre, c'est Contre les hérésies, mais c'est vraiment une somme théologique, hein, je vous en recommande la lecture, c'est absolument magnifique, et on a toutes l'histoire de la première communauté chrétienne, des premiers apôtres, et il dit qui a écrit les évangiles. Voilà. Il y a également le canon du Muratori. Je ne sais pas si vous connaissez le canon de Muratori, hein, qui n'est pas un canon qui nous envoie de je ne sais pas quel enseignement. Hein, c'est le canon, c'est-à-dire la règle, hein, trouvée par un savant italien au XVIIIe siècle dans une bibliothèque, un Muratori. Voilà. Mais c'est un texte, un manuscrit qui est extrêmement ancien, qui nous renseigne sur le Nouveau Testament au IIe siècle. Donc ça a été un document de première importance. Et de fait, il y a cette attribution à Luc. Ben je vais lire le petit passage du canon de Muratori. Le troisième livre de l'Évangile est selon Luc. Luc est ce médecin qui, après l'ascension du Christ, fut emmené par Paul comme compagnon de ses voyages et qui écrivit en son nom selon la pensée de Paul. Cependant, il ne vit pas lui-même le Seigneur en chair. Pour cela, il commence son récit à partir de la naissance de Jean, comme il put l'atteindre. Un témoignage extrêmement ancien. Hein. Nous avons peu de choses sur sa personnalité. On devine qu'il est cultivé, qu'il connaît les Écritures, qu'il maîtrise la langue grecque, de culture hellénique. Hein. Il y a des indications géographiques qui trahissent son origine grecque. Hein. On voit qu'il a une connaissance telle qu'un grec pouvait l'avoir. On pense que c'est un païen converti. Certains disent que c'est un Syrien d'Antioche. Voilà. Quant au destinataire, alors je vous ai parlé de Théophile, hein, on a peu d'éléments. Probablement, il était catéchisé, mais le terme que je vous ai mis au début, hein, catexès, hein, catechéo, qui veut dire il a reçu un enseignement, c'est pas ce que nous entendons par la catéchèse au sens moderne, c'est-à-dire donner le contenu de la foi de façon organisée. Ça, à la limite, c'est Luc qui le fait. Hein, catéchèse, dans ce sens, c'est témoigner de ce qui s'est passé. Voilà. Plus largement, l'évangile a pour destinataire des païens. Hein, on pense que Luc, enfin, on voit bien que Luc s'adresse à un public de païens. Il y a des usages juifs dont les auditeurs ne devaient pas être familiers, qui sont omis par saint Luc. Il y a toute une série, je vous ai donné deux ou trois exemples. Voilà, des usages juifs et des thèmes qui n'intéressent pas forcément les païens. Voilà, la rédaction du troisième évangile, c'est les années 80. Hein. Autant on a pris l'habitude de certains exégètes de dire tous les évangiles ont été écrits très très tardivement, de façon un peu systématique, on se rend compte que c'est plus compliqué et que ils ont au moins saint Marc a été écrit assez tôt, hein, et certaines parties de saint Jean. Luc, là je crois que c'est assez clair qu'il est tardif, il reprend des éléments de Marc, mais aussi d'autres traditions. Les récits de l'enfance, bonne raison de penser qu'il a reçu les témoignages de la Vierge Marie, et puis d'autres sources, une des plus connues, c'est Manaen, ami d'Hérode, donc bien placé pour avoir le point de vue officiel, royal, administratif, etc., mais qui va faire aussi partie des disciples. Voilà, je termine là, ça fait beaucoup, beaucoup de matière, j'en suis bien conscient, vous aurez le temps chez vous de reprendre les choses. Il reste quelques minutes, 7 minutes avant les complices, on essaiera de partir sortir un peu avant, s'il y a des questions.
C'est écrit en grec ?
C'est écrit en grec. Alors, tous les évangiles sont écrits en grec, et saint Luc, alors de façon très nette, il a une maîtrise de la langue grecque qui est assez claire, tout à fait. Oui ?
Quelle explication donne-t-on au fait qu'il y a deux livres ?
Ah ben. En fait, il faut imaginer que quand Luc a écrit, il devait y avoir une continuité, mais avec une unité, j'allais dire à l'intérieur de son diptyque, on voit bien qu'il y a une unité parce qu'il y a un nouveau démarrage avec les Actes des Apôtres. Aujourd'hui, on a intercalé Jean parce qu'on a voulu mettre Matthieu, Marc et Luc, parce que c'est les synoptiques, on les a mis ensemble. Jean, il fallait le mettre en dehors, donc on l'a mis après Luc. Mais aussitôt après, on met les Actes des Apôtres pour ne pas trop éloigner de Luc. Mais en réalité, on voit à la fois la continuité, et vous avez vu le parallèle que j'ai essayé de vous montrer, descente de l'Esprit, mission de Jésus, descente de l'Esprit, mission des Apôtres. Donc on a quand même deux récits. C'est une fois qu'on a ça dans la tête, descente de l'Esprit, mission de Jésus, descente de l'Esprit, mission des Apôtres, et le lien est fait par les 12 que Jésus choisit, puis les 12 qui sont missionnaires, là on voit quand même la cohérence. Ça, oui ? Oui ? Alors, c'est à partir de Saint-Irénée. D'ailleurs, j'ai pas pris le soin de. Vous avez vu que j'ai une belle reproduction du maître de Fauvel, hein, des enluminures de la BNF qui sont très belles. Saint-Irénée reprend quatre figures connues dans l'Apocalypse. L'apocalyptique juive, donc déjà le livre d'Ézéchiel, donc c'est ancien, avec la figure de l'homme, du taureau, de l'aigle. Et du lion. Voilà. Quand vous allez dans les tombes des tombes du 1er siècle en Galilée, vous avez ces motifs qui apparaissent partout. Voilà. Hein, donc c'était connu. Irénée va dire, et ces quatre figures de l'Apocalypse qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, les quatre vivants qui entourent le Fils de l'homme manifestent chacun quelque chose du Fils de l'homme. Il va faire une attribution. Et je crois que l'attribution définitive date du Moyen-Âge. On a dit chaque figure se réfère au début de l'Évangile. Alors Matthieu commence par la généalogie, on va lui attribuer l'homme. Jean, c'est celui qui a le regard de l'aigle, parce qu'il va parler du Logos, hein, il contemple le soleil, voilà. Donc c'est l'aigle. Marc, il commence dans le désert, au Moyen-Âge, on disait dans le désert, il y a des lions. Et Luc, ça commence au temple, et le temple, c'est les taureaux du sacrifice. Hein, c'est le taureau du sacrifice. C'est le thème du temple par lequel commence l'évangéliste.
Voilà. C'était déjà dit dans Isaïe, je crois. Isaïe en parlait déjà.
De quelle chose ?
De ces symboles des quatre.
Alors je ne sais pas, peut-être ça me paraît, c'est surtout Ézéchiel. Ézéchiel, vous avez l'apparition du char, hein, ça veut dire le ciel s'ouvre, hein, on voit c'est le char avec les quatre figures, les quatre vivants qui apparaissent. L'idée c'est de dire il y a un mystère ineffable et le lion, ça se réfère au prophète Amos, le rugissement du lion, donc c'est la parole qui est forte. Hein. L'aigle, c'est celui qui est dans le ciel, l'aigle également dans le livre de l'Exode, hein, Dieu comme un aigle qui a porté son peuple sur ses ailes. C'est ça l'aigle également. Vous avez toute cette symbolique qui est présente dans l'Ancien Testament. C'est rassemblé dans le livre d'Ézéchiel, surtout Ézéchiel. C'est Ézéchiel. Et le livre et Saint Jean dans l'Apocalypse ne fait que reprendre l'attribution, enfin les figures d'Ézéchiel. Et ensuite, Irénée, puis les auteurs au Moyen-Âge ont fait cette attribution. Et donc Luc en effet le lien avec le temple de Jérusalem. Voilà. Oui.
Cette traduction des évangiles aujourd'hui,
oui,
elle est assez récente, parce que c'est d'une écriture tout à fait...
Quelle traduction ?
La traduction, ce que l'on lit, c'est très moderne.
Oh, au fur et à mesure des âges, on a lu plus ou moins des traductions, c'est-à-dire que pendant longtemps, c'est resté en latin, donc c'était les clercs qui pouvaient lire. La première traduction en français, est-ce que vous savez de quelle date, de quelle époque elle date?
Concile de Trente.
Quand on nous dit... Hein,
c'est un mot, c'est l'école de Meaux.
Alors, c'est pas un mot, c'est à Paris, mais l'école de Meaux, c'est au référence au XVIe siècle avec Brissonnet, c'est ça, non?
Oui.
Alors, il y a toute une école, en effet, humaniste, qui a bien développé ça, bravo, mais c'est antérieur. C'est un Parisien. Messieurs et dames, les Parisiens, bravo. Il s'appelait Robert Cosmétor, c'est-à-dire Robert le Mangeur, et c'est au XIIIe siècle. Voilà, première traduction dans le vieux français qui était en cours de constitution. Vous voyez que l'idée de le mettre en français, voilà. Mais ensuite, ça s'est traduit au début de la traduction de Lemestre de Sacy au XVIIe siècle, et aujourd'hui, vous avez la Bible de Jérusalem qui me semble vraiment excellente. Vous avez la Bible d'Hostie, la Tobe, traduction liturgique. Il y a 1000 traductions, et il y en aura toujours. Parce que là, le français n'est pas une langue figée. Donc, dans un siècle, déjà dans 50 ans, vous verrez que les mots auront un peu changé. Donc, ça bouge et c'est normal. Hein, donc, vous avez plusieurs traductions. Celle qui est normative pour nous, c'est pour la liturgie. Mais sinon, lire l'Évangile, vous pouvez le lire. Si vous n'avez pas de Bible, voilà, vous avez le choix entre plusieurs. Voilà, on va... Oui ? Et puis, on va... Elle vient de changer il y a 5 ans à peu près. Voilà, et elle est, je la trouve, assez remarquable parce qu'ils tiennent beaucoup de défis à la fois scientifiques, littéraires et accessibles pour la prière. Hein, quand c'est que scientifique et littéraire, c'est très savant, mais pas forcément. Voilà, quand c'est que pour la piété, mais pas scientifique, c'est pas bien. Il faut tenir les trois et je trouve qu'elle est quand même plutôt bien. Voilà, bien écoutez, bravo pour votre passion.